je vous ai dit dans le premier livre de Samuel, mais on va lire, gardez la page, on va lire un texte dans les Romains, s'il vous plaît, au chapitre 8. Vous connaissez tous ce texte, tous. Mais je suis persuadé que beaucoup seraient incapables de me dire pourquoi cette promesse est si souvent rappelée. Regardez avec moi dans Romains au chapitre 8, tout le monde connaît cette promesse. Tout le monde la connaît. Et justement, avec M. Olé, il nous a beaucoup enseigné à tenir compte du contexte et pourquoi une chose était dite et dans quel contexte elle avait été dite. Regardez Romains chapitre 8, verset 28. Qui ne connaît pas ce verset ? Qui ne connaît pas ce verset ? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui ne connaît pas ce verset ? Tout le monde connaît ce verset. Il est cité à tort et à travers pour justement parfois faciliter peut-être une explication. Mes frères et sœurs, regardez pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, si vous étudiez bien, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, on fait des prédications n'importe comment, on prend un verset, on fait dire n'importe quoi. Mais mes frères et sœurs, Dieu, dans sa souveraineté, peut faire concourir toute chose dans un but bien précis, c'est que nous ressemblions de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est exactement la raison d'être de l'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas de la dénomination, je parle de la véritable Église, que nous ressemblions de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai demandé d'ouvrir le premier livre de Samuel. Nous allons voir dans quel contexte Dieu a pu préparer un instrument qui allait servir à la gloire de son nom. C'est une histoire qu'on connaît bien, lisons-le. On va prier, je vais prier, parce que je sais que beaucoup de chrétiens lisent avec la tête. Il ne faut pas lire avec la tête, il faut lire avec son cœur. Il faut comprendre que Dieu a laissé ces choses pour nous enseigner une vérité. Ce matin, Dieu veut nous parler. Vous allez peut-être dire, moi je connais par cœur le premier livre de Samuel. Mais moi je peux vous dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On ne connaît pas par cœur la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que dans chaque texte, dans chaque mot, il y a un secret que Dieu peut vraiment nous enseigner. Seigneur notre Père, Seigneur Jésus, je sais que ce matin dans ce lieu, tu cherches des instruments, des ânes, des Samuel. Tu cherches quelqu'un qui va pouvoir contribuer à ton dessein. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où la routine s'est imposée dans notre cœur et nous a empêchés de recevoir ta pensée. Tu connais ce matin ceux qui viennent depuis des décennies ou ceux qui viennent depuis quelques fois. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous, s'il te plaît, Seigneur. Amen. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophen, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsoph, d'Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Regardez bien la suite. Que l'Éternel avait rendu stérile. Je le relis. Il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. C'est pas le diable. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» C'est clair que le pauvre faisait de son mieux. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des 2 poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Dieu avait trouvé quelqu'un. Mes frères et sœurs, j'espère ce que je vais vous dire. Je sais qu'hélas, que beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients. Je l'ai dit maintes fois, bien des choses n'ont pas été reçues, vraiment reçues, dans le cœur, je ne parle pas dans l'intelligence. L'intelligence, j'espère que nous entendons avec nos oreilles physiques. Je parle de recevoir d'une manière spirituelle. Beaucoup de gens ne comprennent rien à la volonté de Dieu. Je pense que si nous, les pasteurs, nous avions l'onction que Dieu veut que nous ayons, je suis quand même sûr que les choses évolueraient. Mais il n'empêche que quand on voit le cas de figure, je peux vous dire que le pasteur de l'époque, ses fils sacrificateurs, n'étaient pas dans un état spirituel qui permettait beaucoup de discernement. Ça n'empêche pas que quelqu'un a pu être l'instrument de Dieu. Nous demandons d'être remplis, c'est Paul qui le dit, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse spirituelle. Vous connaissez ces mots, ça fait un peu théologique. Mais quand même, il doit y avoir dans le cœur de tous les chrétiens le désir de connaître la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord? Je lisais hier les Thessaloniciens, je l'ai marqué sur mes notes. Paul dit aux Thessaloniciens, mais comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai? Quand ils se sont convertis, leur cœur soupirait à une chose, ils voulaient servir Dieu. Alors servir Dieu justement, c'est la rentrée scolaire, dans toutes les églises de France, je sais, c'est clair, que l'on va prêcher sur le service. Parce qu'il faut mettre les chrétiens au travail. C'est comme ça, il faut que les chrétiens trouvent un service, il faut faire quelque chose, j'espère que vous faites quelque chose. On peut, écoutez bien, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous aurez du mal à saisir la suite. On peut amener une église à entrer dans un service. Dans un service, il faut faire quelque chose. Tu as une belle voix, mais tu pourrais chanter à la chorale. Vous voyez ? Alors c'est pas forcément mauvais, c'est humain. Mais vous allez voir que le service, c'est pas humain. Même s'il est fait par des êtres charnels que nous sommes, même par les gens humains, le service, il doit être spirituel. C'est important. Et si on faisait un questionnaire ce matin, on aurait pu le faire, sérieusement. Prendre une petite fichette et dire, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous le service de Dieu? Qu'est-ce que c'est pour vous? Vous y répondez en 5 points. Voilà, chacun, vous mettez 5 lignes. Qu'est-ce que vous mettriez? Voilà, vous recevez une petite fiche. Qu'est-ce que le service dans l'Église? Chacun mettrait la sienne. Je pense qu'on aurait des surprises. Pour vous dire à quel point, mais je le sais, parce que j'ai quand même suffisamment questionné des chrétiens et j'ai suffisamment eu de réponses pour voir combien beaucoup de chrétiens n'ont rien compris à ce qu'était le service. Vous l'avez lu avec moi, c'est sous-entendu, très bien dit dans le texte, même toute chose concourt au bien, ça n'a qu'un but, le service. C'est que nous ressemblions de plus en plus
à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est votre objectif majeur de ressembler à Jésus-Christ? Dieu nous a sauvés, bien sûr que Dieu nous a sauvés pour des œuvres. Est-ce que Dieu a préparé des œuvres pour nous? Oui, il y a des œuvres. Il y en a. Et croyez-moi que pour nous, chrétiens du 21e siècle, il y a des œuvres préparées par Dieu. Mais ce n'est pas parce que j'ai un service dans l'Église que je vais rentrer dans le dessein de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que je fais quelque chose dans l'Église que nous sommes obligatoirement dans la volonté de Dieu. Nous pouvons, je parlais de la banque alimentaire tout à l'heure, de l'aide alimentaire, parce qu'on est sorti de la banque alimentaire pour la simple et unique raison que si on est affilié à la banque alimentaire, on est dépendant de l'État, et que si on dépend de l'État, on n'a pas le droit de distribuer des évangiles. Alors nous, on a dit ça, on n'en veut pas. Nous, on préfère avoir qu'une boîte de sardines à donner, mais qu'on puisse donner un évangile à la personne que l'on aide. Voilà. Je pense que c'est une parenthèse, mais ce n'est pas parce que je donne 3 boîtes de sardines à un démuni que le dessein de Dieu s'accomplit. Vous comprenez ce que... Est-ce qu'il faut donner les 3 boîtes de sardines? Oui. Est-ce que nous devons aider les démunis? Oui. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est en train de devenir ça. Dans des multitudes d'églises, le service remplace la spiritualité. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église, il ne faut pas que nous ayons tous un service. On pourrait le faire s'appliquer, mais s'appliquer, vraiment s'appliquer. Et dire, voilà, il y a tant d'activités dans l'Église. Mes frères, nous avions 32 services. Maintenant, nous en avons 45. Nous avons fait des progrès dans l'organisation de l'Église. Et tous les chrétiens ont trouvé leur place. Et tatati, et tatata. Mais moi, je peux vous dire que c'est pas ça. Le dessein de Dieu. Le service est imparable. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si vous ne faites rien pour le Seigneur Jésus-Christ, je vous plains. Vraiment, je vous plains. Si vous avez enterré le talent, je vous plains. Vraiment, je vous plains. Si vous n'êtes pas préoccupé par le besoin de faire quelque chose, sérieusement, je vous plains. Vraiment, je vous le dis avec cœur. Croyez que j'ai prié pour cette prédication. Et je sais très bien que le gros piège dans la rentrée, dans le corps de Christ, dans les assemblées de Dieu avec, ça sera ça. Il faut mettre les gens au boulot. Moi, je ne vois pas les choses de la même manière. Je ne vois pas les choses comme ça. Le service, il est spirituel. C'est pour ça que je souhaite voir tous ceux qui aspirent. Je pense qu'il y a des frères qui aspirent à la charge d'évêque, c'est biblique. Il y a des sœurs qui aspirent à la charge de diaconesse, et c'est bien. Mais je peux vous dire que Dieu nous garde de chercher un service pour faire l'œuvre de Dieu. Je pense que quand on est spirituel, on est amené à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est une joie de le faire. Tout peut être fait d'une manière humaine, tout peut être fait d'une manière charnelle. Moi, je peux dire, voilà, t'es là pour préparer des prédications, eh bien, tu prépares des prédications. C'est ton travail, c'est ta responsabilité, tu prépares des prédications. Est-ce que parce que je prépare des prédications, l'œuvre de Dieu va se faire? Non. L'œuvre de Dieu, elle se fera si je suis spirituel. Parce que si je suis spirituel, la pensée qui sera donnée à l'Église sera spirituelle. Mais si je ne suis pas spirituel, je peux prêcher tant que je veux, même sur le réveil, même sur des sujets merveilleux comme la présence de Dieu, ça ne changera absolument rien. Une chose doit être comprise, c'est que tout ce que vous vivez, je ne sais pas les bénédictions que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas les épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer, car toute la vie est faite de bénédictions et faite d'épreuves. Vous le savez, j'espère que je ne vous apprends rien. Si vous marchez avec Dieu, vous avez tous reconnu que Dieu nous bénit, mais que Dieu nous éprouve. C'est comme ça. Ne dites pas, Dieu, ne m'éprouve pas. Seigneur, je rendrai sans épreuve. C'est pas vrai, ça marche pas. Ça marche jamais. Il faut être éprouvé. C'est comme ça que ça marche. Mais une chose est sûre, et on le verra le mardi soir, ou certains dimanches, vous vérifierez que le but de Dieu, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude. On pourrait prendre les versets. Que Dieu est la première place. Nous pourrions voir que nous soyons rendus conformes à la mort de Christ. La volonté de Dieu, c'est pas que nous ayons une église ecclésiastiques, religieuses, sophistiquées, mondaines, avec des activités religieuses à l'appel, en veux-tu, en voilà. La volonté de Dieu, c'est que l'Église ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Vous pouvez dire amen. Voilà, si quelqu'un ce matin dit « Mais montre-moi ta volonté, je veux connaître ta volonté. » Eh bien, la volonté de Dieu, c'est que nous ressemblions de plus en plus au Maître. On peut reprendre les textes, il n'y a que l'embarras du choix. Alors, les efforts aujourd'hui sont faits, beaucoup d'efforts sont faits. Dans plein d'églises, on fait plein d'efforts et c'est bien, ça part d'une bonne intention. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. On veut christianiser l'Église. Vous me suivez? C'est quelque chose de terrible. On ne voit pas le réveil. Mais bien sûr, on ne cherche pas la ressemblance à Jésus-Christ. On cherche à faire des trucs, à faire des choses, à faire des activités. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est un pléonasme ce que je veux dire, mais enfin, il faut le dire. L'œuvre de Dieu, vous êtes d'accord? Elle est spirituelle. Donc il faut des hommes spirituels. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Vous voulez que l'œuvre de Dieu se fasse? Et la question que nous devons nous poser n'est pas qu'est-ce que je fais dans l'Église, même si on doit quand même être amené à chacun à pouvoir répondre à cette question d'une manière quand même saine. Dieu m'a montré qu'il fallait que je fasse ça. Je pense que c'est quand même important. Et je vous encourage à vous tenir à genoux s'il faut devant Dieu le temps qu'il faut, mais pour que vous sachiez ce que vous avez à faire. Car quand vous passerez devant Dieu, j'espère que vous avez envie d'entendre « Entre bon et fidèle serviteur ». Vous n'avez pas envie d'entendre ça quand vous passerez devant le Seigneur? Non? Moi, oui. Entendre vraiment, voilà, ce que j'avais à faire, je l'aurais fait. Alors, l'œuvre de Dieu, oui, je le répète, elle doit être faite avec des gens spirituels. Tout notre travail, toutes nos activités, tout ce que l'on chante, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, devrait avoir qu'un seul but, que Christ grandisse dans notre vie. Regardez le témoignage de Paul. Vous avez vu tout ce que Paul a fait? Ça fait peur, tout ce que Paul a fait. Qu'est-ce qu'il voulait, Paul? Ressembler de plus en plus au Seigneur. Vous avez vu? Lisez les épîtres de Paul. Il n'avait qu'un but, c'est que Christ grandisse en lui, qu'il soit conforme aux souffrances de Christ, qu'il soit conforme à la mort de Christ. Regardez pourquoi, comment Paul a été utilisé par Dieu, parce qu'il ressemblait de plus en plus au Seigneur. Alors la question qu'on peut vraiment poser suite à ce que je viens de dire, mais c'est une question sérieuse. Alors peut-être que je l'ai dit plusieurs fois, vous avez dit, ou c'est la 20e fois qu'il la pose. Est-ce que nous voulons être des hommes et des femmes spirituels? C'est là la question. Vous comprenez bien que ce n'est pas parce que je vais à l'église, ce n'est pas parce que j'ai une activité dans l'église, serait-ce même la prédication. Ce n'est pas pour ça que nous sommes des gens spirituels. Jésus un jour a dit à des pharisiens, des pasteurs pointus, vous sondez les Écritures. C'était bien ça, vous vous rendez compte? Ça partait bien, ils ont dû sourire au début. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle et vous ne voulez pas venir à moi. Alors là, ils n'ont pas dû rire. Mais c'est ce qui se passe. Nous allons à l'église, nous lisons notre Bible, nous avons une activité ou deux activités dans l'église. Alors c'est vrai que ça peut nous rassurer, mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui disent « Est-ce que je suis spirituel ?» Je lisais cet été, là, pendant mes vacances, je cherchais un vieux pasteur là, qui avait écrit des choses formidables. Et il parle au pasteur, justement. Et voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit « Mais vous ne devez pas chercher des messages. Vous ne devez pas chercher à préparer de beaux messages. Vous devez être le message. » Moi, je vous assure, ça m'a permis de méditer pendant plusieurs heures. Vous avez compris là, la leçon? Mais on pourrait dire à tous les chrétiens pareil, vous ne devez pas faire quelque chose. Nous devons ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Nous nous demandons pourquoi il n'y a pas de réveil. Nous demandons pourquoi dans des églises où il y a un pasteur qui se gargarisait d'avoir presque 70 activités dans l'église. Bon, mais c'est bien, tant mieux. Mais le réveil, ce n'est pas les activités. C'est vrai que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que franchement, ça serait malveillant. Mais mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, elle se fait avec des gens spirituels. Et on ne peut pas imiter la spiritualité. On ne peut pas l'imiter. On est spirituel ou on ne l'est pas. la religiosité, le christianisme, le patois de Canaan et tout ce que vous voudrez ne remplacera pas une véritable spiritualité. Et la véritable spiritualité, ça demande vraiment une mort à soi-même. On ne peut pas être mondain et spirituel. Et il faudrait voir le contexte. C'est pour ça que j'ai pris l'histoire d'Anne. Parce que cette histoire, si vous connaissez le contexte dans lequel Dieu a trouvé un instrument, c'est-à-dire Anne, et un outil, Samuel, vous avez vu les conditions spirituelles dans lesquelles ça se passait. Cette semaine, ça m'est venu à l'esprit. Vous avez lu le contexte? Quand vous voyez le comportement des pasteurs, des fils d'Élie, du sacrificateur principal, qui laissait tout faire, ses fils, un jour il a fait un petit reproche, vous savez, c'est pas bien. C'est pas bien ça, tu sais. Il y a des parents qui font pareil avec leurs gosses. C'est pas bien, c'est pas bien. Et Dieu d'ailleurs l'a repris sévèrement. Il lui a dit, mais d'où vient? D'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi? Et c'est ce qui est en train de se passer. On veut faire plaisir à tout le monde, etc. Je ne vais pas argumenter sur cette affaire. Donc, on dit presque rien. Et on ne parle pas de mort à soi-même, de repentance, de conversion, de nouvelle naissance. On est entré dans une apostasie. Pas possible. Avant-hier, il y avait un pasteur qui m'appelait. Je ne le connais pas. Il n'est pas de ce mouvement. Il m'appelait. Il me dit, Monsieur Gau, j'ai écouté une prédication de vous sur l'apostasie. Et il me dit, je constate que de plus en plus de chrétiens abandonnent l'Église dès qu'on leur fait une réflexion. Je dis, vous inquiétez pas. C'est pareil à Sainte-Agne. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui veut ressembler au Seigneur? Il est attaché à la doctrine. Quand il chante « Les plaisirs du monde ne m'attirent plus », il le chante, c'est vrai. Un chrétien charnel, il le chante, mais il s'en fiche, ce soir il va regarder des saletés à la télé. Il ne faudrait pas chanter. Mais à la limite, on devrait prendre position. Un chrétien spirituel, il comprend ces choses. Vous savez, je prie, vous le comprenez bien, je ne prie pas pour préparer des prédications. Ça, c'est la chose la plus facile que je puisse faire. Mais je sais que c'est un piège du diable aussi. Je le sais. Pour moi, c'est un piège de préparer des prédications. Avoir la pensée de Dieu, ça me préoccupe vraiment. Et hier, avant-hier, je priais. Et ce texte de Anne, que Dieu a pu utiliser dans la souffrance. Dans la souffrance. D'ailleurs, presque tous les gens qui ont été utilisés par la souffrance. Si vous me trouvez un texte, j'en vois pas beaucoup, moi. Où des gens n'ont pas souffert, qui ont été utilisés. Mais regardez le contexte, les visions n'étaient pas fréquentes, il n'y avait plus de visions, mais pensez donc, comment le Saint-Esprit, comment Dieu pouvait-il se manifester dans un péché pareil? Les fils d'Élie qui couchaient avec des femmes dans l'enceinte du temple. Non mais c'est un truc de fou quand on y réfléchit. Alors vous allez me dire, ah, mais moi monsieur Gaumont, moi l'adultère ça risque rien. Mais le Nouveau Testament ne parle pas que de l'adultère physique. Vous savez combien Dieu parle régulièrement de l'adultère spirituel. Quand il dit, mais vous demandez, vous ne recevez pas, vous connaissez ce texte. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, etc. Les chrétiens qui prient pour eux. Il dit pas bien aimé là, il dit adultère que vous êtes. Comment l'Esprit de Dieu peut-il agir dans une église si nous vivons dans l'adultère spirituel? En plus, on voit le cœur de Dieu quand il ajoute, mais ne savez-vous pas, vous croyez que l'Écriture parle en vain? Ne savez-vous pas que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous? On voit que ce que Dieu veut, c'est chérir le Saint-Esprit dans notre esprit. Il dit, mais on ne peut pas faire de Dieu. Vous résistez à Dieu, vous croyez résister au diable, mais vous résistez à Dieu. Vous connaissez ce texte? Il dit, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Pourquoi Dieu ne s'approche-t-il pas de nous comme on le lui demande? Eh bien, parce qu'on ne s'est pas approché de lui, comme il nous le demande. Croyez-moi, le cœur de Dieu soupire de s'approcher d'une église, de se manifester dans une église, d'agir dans une église. Et le contexte, vous le relirez par curiosité spirituelle. Vous relirez le contexte dans lequel Dieu a pu trouver Anne et a pu faire un Samuel, c'est exactement le même contexte qu'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il y avait les Philistins qui rôdaient. Vous savez ce qui s'est passé, enfin, c'est grave ce qui s'est passé. Parce que les Philistins représentant la chair, vous le savez, le résultat, c'est qu'ils ont réussi à voler l'arche de Dieu. À force de jouer avec la chair, eh bien, la présence de Dieu, elle se retire. C'est exactement pareil. Ça s'est passé il y a des siècles, mais le contexte nous indique exactement la même chose. L'adultère, la légèreté, Dieu qui ne parle plus. Comment voulez-vous que Dieu parle alors qu'on l'a éloigné? Et le résultat, c'est que on ne voit pas Dieu marcher au milieu de nous. On attend tout du pasteur. Je ne sais pas de ce que vous attendez. Peut-être, oh, il faudrait, Seigneur, que notre pasteur soit spirituel. Mais bien sûr, faites-le. Priez pour ça. Vous pouvez prier pour ça. Mais vous croyez que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que le pasteur qui doit être inspiré? Il n'y a que le pasteur qui doit être spirituel avec les anciens et les quelques responsables? Seigneur, bénis les responsables, bénis le conseil d'administration, qu'ils ne fassent pas de bêtises avec l'argent de l'église, etc. etc. C'est ça l'église? Que Dieu fasse. Parce que je crois dans la souveraineté de Dieu. Ça me rassure. Si je ne croyais pas dans la souveraineté de Dieu, je peux vous dire que je serais triste vraiment. Parce que Dieu a un dessein. Et ce dessein, de toute façon, il s'accomplira. Nous, on prie, Seigneur, reviens bientôt. Bon, c'est biblique en plus. On peut le faire, c'est dans l'Apocalypse, on voit les chrétiens, que l'Esprit et l'Église disent, Seigneur, viens. Donc, on n'a pas à juger quelqu'un qui dit, Seigneur, viens chercher l'Église. Bon, ne vous inquiétez pas que vous pouvez faire cette prière, mais elle ne s'accomplira pas tant que le dessein de Dieu ne sera pas accompli. Dieu a des desseins, Dieu a des plans. Ces plans-là, c'est qu'il les fait au travers d'hommes et de femmes, non pas qu'ils sont bourrés d'activités. Moi, je fais 5 trucs dans l'église. Mais tu te rends compte, je fais 5 trucs dans l'église. Et toi, tu fais combien de trucs? 3? On pourrait dire beaucoup de choses sur l'activisme. L'activisme, je pense, moi, ça a attristé l'église. Alors que quelqu'un qui a vraiment une communion avec Dieu va faire quelque chose qui correspond à ce que Dieu attend. Et il y aura une joie. La Bible parle de la joie dans l'activité. Oui ou non? Celui-là sera heureux dans son activité. Je vous ai dit ces choses de demeurer en moi. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On voit bien qu'il y a une grande et véritable joie d'appartenir entièrement au Seigneur. Et Dieu a un dessein. Vous comprenez bien que quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1er, enfin, et le reste, vous dites, bon, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ce qui se passait au début du livre de Samuel. Mais vous croyez que Dieu est d'accord avec ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Alors peut-être si vous venez pour la première fois, ça vous dépasse un peu. Mais les anciens... Est-ce que vous croyez que Dieu est d'accord avec ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Bien sûr que non. Dieu n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devient de ces philosophes? Parce qu'il y en a des chrétiens philosophes. Ben ouais, c'est comme ça. Tu sais, la Bible parle de la fin des temps. Il y aura des jours difficiles. Les chrétiens seront égoïstes. Écoute, on va faire avec. Hein. Est-ce que vous êtes de ces chrétiens fatalistes qui disent ben ouais, c'est comme ça. Écoute. Mes frères et sœurs, les gens que Dieu va utiliser ne seront pas des philosophes et des fatalistes. Les gens que Dieu va utiliser, ce sont des hommes et des femmes qui vont réagir exactement comme Anne. Anne était dans la même église que Pénina. Oui ou non? Elles étaient dans la même église. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces choses. Anne souffrait, elle souffrait beaucoup. Dieu l'avait rendu stérile. Hier, je pensais aux femmes, à ces femmes dans la Bible, qui étaient stériles. Je pensais à Sarah, à Rebecca, à la femme de Manoac, à Élisabeth. Ces femmes qui ont connu des souffrances qu'on ne peut pas soupçonner. Parce que là, c'est très succinct. Je l'ai dit que Dieu est très succinct. Mais mes frères et sœurs, si vous savez ce que certaines femmes ont pu vivre... Parce qu'elles étaient stériles. Parce que la Bible avait dit que si tu n'obéis pas, je te rendrai stérile. Alors vous comprenez bien que ces femmes, elles devaient s'entendre de tout. Alors que quand vous voyez ces femmes, je peux vous dire qu'elles étaient sérieuses spirituellement. Mais Dieu utilise la souffrance. Vous comprenez, si vous partez bien de ma prédication du début, le service, on va se mettre au service. Et je veux que tout le monde ait un service dans l'Église. Moi, pasteur principal de l'Assemblée de Dieu de Toulouse-Sainte-Agne, je veux que tous les chrétiens aient une activité. On peut le faire, on peut le faire. Mais je peux vous dire que ce n'est pas ça qui amènera l'approbation du Saint-Esprit dans l'Église. Ce qui amènera l'approbation du Saint-Esprit dans l'Église, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, est capable d'utiliser la souffrance. Parce que la stérilité, c'est une souffrance. Mais avoir un mari qui n'est pas chrétien, est-ce que ça peut être une souffrance aussi que Dieu peut utiliser ? Des enfants qui ne sont pas encore convertis, des enfants qui sont méchants, est-ce que ça peut être une souffrance ? En fait, des souffrances, il y en a des multitudes. Et ne nous affolons pas. Dieu peut permettre que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, à condition que dans cette souffrance, je prenne la décision, vraiment je prenne la décision, de surmonter le mal par le bien. Anne aurait pu dire, bon, mais si c'est ça... Ça m'énerve. Mon mari, il est gentil. Bon, il est sympa. Vous avez comment il était gentil. Hein? Bon, mais c'est bon, j'arrête. Il y a plein de gens qui sont aujourd'hui qui devraient être dans nos églises en train de louer le Seigneur et qui sont partis rétrogrades. J'en ai marre. L'église, si. En tous les cas, ils n'ont pas passé le test. Parce que je crois, croyez-moi, que Dieu nous éprouve dans la vie. Dieu nous éprouve. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien d'entre nous, ça vous est jamais arrivé de dire je plaque tout, j'abandonne tout? Allez, dites-le doucement. Allez, je regarde personne, mais dites-moi-le. Ça vous est jamais arrivé ? Eh bien, béni soit Dieu qu'on soit resté. Parce que Dieu nous teste. Anne aurait pu dire à un moment donné, bon, non, moi j'en ai marre de Pénina, elle m'énerve. Vous avez vu tout ce qu'elle... Elle était anorexique, elle mangeait plus, elle pleurait, elle souffrait, elle répandait... Elle était dans une souffrance totale. Elle aurait pu dire, mais tu sais ça, je ne vais plus à l'église, ce chrétien, il m'énerve. La souffrance... On pourrait en parler, mais la souffrance, écoutez-moi la souffrance, c'est souvent l'outil que Dieu va utiliser pour qu'on enfante des Samuel. Tiens, je vais vous poser une question, les femmes. Vous auriez préféré avoir tous les enfants de Pénina ou rien qu'un enfant qui s'appelle Samuel ? Pourtant, en Pénina, tout allait bien pour elle, elle avait des gosses, elle était heureuse, tout allait bien. Vous voyez qu'avec le recul ? C'est pour ça, mes sœurs, mes frères, qui êtes dans la souffrance, sachez vraiment, sachez-le, que la souffrance, c'est pas dire, oh, je souffre, j'ai perdu mon boulot, je gagnais 2000 euros par mois, mais monsieur Gomadi, c'est un exemple que je sais pas vrai, mais monsieur Gomadi, je vais gagner 2300 euros, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, oh, alléluia, je vais gagner 300 euros de plus, merci Seigneur pour tes promesses, je vais la coller sur le mur de mon bureau. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est ça qui se passe. Mais peut-être qu'à la place de gagner 2000 euros par mois, vous allez en gagner que 1005. Mais que vous serez dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous avez vu de suite les sœurs ? Ah, moi je préférerais avoir qu'un fils qui s'appelle Samuel. Pénina n'a pas souffert. Anne, elle a souffert, relisez-le. Mais... mettez-vous à genoux, priez et demandez à Dieu comment cette femme a souffert. Et je peux vous dire que vous allez voir sa souffrance. C'est indicible sa souffrance. Et Dieu a trouvé un instrument. C'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. C'est pas des pasteurs qui mettent chaque chrétien au boulot en disant, voilà, Madame Grondin, je veux que vous fassiez ça. Olivier, je veux que vous fassiez ça. Ina, je veux que vous fassiez ça. Madame Espèce, je veux que vous fassiez ça. Madame Sant... Bon, j'arrête. Mais je veux dire... Mes frères et sœurs, c'est pas ça l'Église. L'Église, ce sont des gens qui veulent ressembler à Jésus-Christ. Et c'est la question que vous devez me poser. Mais Gérard, est-ce que tu ressembles de plus en plus au Seigneur ? Ou est-ce que tu es un bon prédicateur ? C'est quoi qu'il faut ? Que vous ayez un bon prédicateur ou un homme qui ressemble de plus en plus à Jésus ? Vous savez, ce matin encore, je méditais, parce que ça me vient beaucoup, ces trucs. Moïse, vous savez, Moïse qui avait la langue embarrassée. Vous savez, quand Dieu l'a appelé, c'était pas le top. Hein. 80 ans, il n'avait plus rien, et la langue embarrassée. Et ce matin, je pensais, ça m'est venu à l'esprit, dans l'Apocalypse, le cantique de Moïse, dans le ciel. On chantera un cantique, c'est Moïse qui l'a composé. Réfléchissez-y. Mes frères et sœurs, Dieu cherche des femmes, des hommes qui vont non pas dire « il faut être rempli du Saint-Esprit », on le sait, ça ne sert à rien, ça fatigue. Vous savez, Dieu m'a poussé, je vous le dis, parce que je l'ai vécu, ça fait, les congés m'ont permis de faire tout ce break vraiment spirituel. J'ai médité tous les jours. J'étais poussé à méditer Zacharie chapitre 4. Tous les jours, 2, 3, 4 fois par jour. La nuit, je me réveillais. J'étais poussé. Je connais ce chapitre par cœur. Et je me demandais pourquoi il faut que je médite ce chapitre. J'étais obligé de le méditer. Ceux qui prêchent comprennent un peu. Vous savez que dans ce chapitre, au verset 6, il y a la clé de la vie. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par mon esprit. Vous êtes d'accord? Vous le savez? On le sait. Si l'œuvre de Dieu se fait, elle se fera d'une manière spirituelle, donc elle se fera que par le Saint-Esprit qui pourra agir. Et comme quoi je comprends vite, au bout de quelques mois, j'ai vraiment réalisé que pour que le Saint-Esprit agisse et marche au milieu de nous, il faut qu'il y ait un chandelier tout en or. Car si la clé, c'est Zacharie 4:6, l'instrument, parce que le chandelier, c'est l'instrument du témoignage, on aurait pu appeler même Zacharie chapitre 4, monsieur Olivier me dira si d'accord, on aurait pu mettre comme titre l'instrument du témoignage, chapitre 4 Zacharie, je pense que ça collerait. Mais la vie de l'Esprit, c'est clair. Mais le Saint-Esprit, quand il sera venu, c'est lui qui fera l'œuvre. Mais pour que le Saint-Esprit puisse agir, il ne faut pas dire qu'il faut être rempli de cet esprit, il faut être rempli de cet esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse se manifester et marcher au milieu de nous, il faut que nous devenions des chandeliers tout en or. C'est pour ça que Jésus dit aux chrétiens de la Odyssée, je te conseille, c'est un conseil, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la teneur de la prédication, ne vous sentez pas obligé, Dieu n'oblige personne. Il faut que ça vienne du cœur. Quand on fait quelque chose pour Dieu, il ne faut pas le faire sous la contrainte. Et il vous faut faire ci, et il vous faut être rempli du Saint-Esprit, et il vous faut faire ça, et moi je vous le dis, et ne soyez pas charnel. Je ne sais pas comme ça que l'œuvre de Dieu se fera. Le Seigneur est vraiment respectueux de ce que l'on fasse les choses de bon cœur. Mais il dit, je te conseille d'acheter de moi, c'est toujours avec Jésus que ça se passe, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. De l'or, pourquoi faire de l'or? Eh bien pour devenir ces instruments d'or et d'argent. Les vases utiles sont des vases d'or. Alors, ce n'est pas une question de dire, voilà, moi, je vais mettre plein la vie aux autres. Mais c'est une question d'intégrité, de sainteté. Et voilà le problème, c'est que dans l'Église, mais moi, quand j'entends, il y a des gens, mais ils sont pas gênés, quoi. Vous n'avez pas vu M. Go, la dernière fois, au Bébête Show, pas au Bébête Show, comment ça s'appelle les marionnettes, là, qui font... Les guignols de l'info. Je dis, mais je pense que ce n'est pas la place d'un chrétien de regarder ces trucs. Heureux l'homme qui ne marche pas et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Quand on voit... Non mais là, on est loin de l'or. On est dans la désobéissance. C'est vrai que moi, je l'ai regardé une fois pour voir. Et c'est vrai que c'est bien fait et que j'ai rigolé. Je vais pas faire le supra-spirituel. Moi, je l'ai regardé une fois. Franchement, je me suis marré. Mais j'avais honte parce que je savais qu'il fallait pas le faire. Mais je l'ai regardé pour savoir. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Mais laissez-moi vous dire que le diable, il est fort pour nous sortir de la sainteté. Et il faut savoir, je te conseille, voilà, mes frères et sœurs, Dieu, il a un dessein. Moi, je crois vraiment que le dessein de Dieu s'accomplira. Je le crois vraiment. Pour moi, c'est incontournable. De la même manière que Dieu allait utiliser la souffrance pour trouver Anne qui allait enfanter l'instrument, de la même manière, Dieu, dans l'Église, on dit, il faut les pentecôtistes, moi j'ai entendu, les pentecôtistes, nos églises, sont les meilleures églises de France. Mon Dieu, quelle honte. Seigneur, pardonne les pasteurs qui ont pu balancer des trucs pareils. Les spirituels, ils ne sont pas dans les assemblées de Dieu, dans les églises baptistes, presbytériennes, pentecôtistes ou apostoliques. Le Seigneur, il les voit. Et Dieu avait préparé Anne. Il l'avait préparée au travers de la souffrance. Peut-être que vous êtes en train de souffrir et que vous avez tenu bon et que vous dites, non, je ne quitterai pas l'église. Anne a fait, parce que vous avez remarqué, toutes les années, c'était pareil. La souffrance, ça peut durer des années. Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi mon mari est inconverti? Parce que je suppose qu'avoir un mari inconverti, ça doit être une grande souffrance. Et que c'est si Dieu ne le permet pas. Dieu avait rendu... Anne, stérile. Ça fait 20 ans que je te prie pour mon mari, il est toujours pareil. Ben oui. Mais vous ne croyez pas, mes frères et sœurs, mes sœurs, vous ne croyez pas que toute cette souffrance peut vous amener à vous jeter aux pieds du Seigneur Même si les pasteurs vont pas bien, même si les sacrificateurs sont dans le péché, même si l'arche a été volée, mais c'est ce qui se passe. Pour moi, la présence de Dieu s'est retirée de l'Église. Le Seigneur, il est à la porte. Est-ce que nous voulons que Dieu marche au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer le prix? Parce que le problème, il est là. Anne a payé le prix. Elle n'a pas tout envoyé balader. Elle s'est jetée à genoux. Elle a épanché son cœur. Quand le pasteur avait un discernement pointu, il a cru qu'elle était ivre. Elle n'a pas dit, mais il m'énerve. Non, elle a dit, non, mon Seigneur, je répandais mon âme devant Dieu. Vous savez, le discernement des pasteurs. Quand on voit le contexte, je vous dis, c'est pareil qu'aujourd'hui. Quand je vois aujourd'hui le pasteur qu'on essaie justement de faire l'œuvre de Dieu en mettant les gens au service et que les gens s'épuisent, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas, on a pas plus de discernement que le sacrificateur Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie. Mais mes frères et sœurs, qui est prêt à payer le prix? Qui? Parce que la prédication, c'est bien. C'est bien la prédication. Surtout quand elle est inspirée, si elle l'est. Mais maintenant, je m'adresse à vous et à moi, et à ceux qui écoutaient sur Internet. Je m'adresse à vous d'une manière solennelle. Où elle est, la Anne, qui va payer le prix malgré la souffrance, les mortifications, l'irritation, elle le dit, l'amertume dans l'âme. Elle prie avec de l'amertume, elle est en colère. Mais elle répand son cœur, et ça va vraiment plaire à Dieu. Il lui fallait un instrument. On n'a pas besoin de religieux. Il faisait des sacrifices. Ah, c'est sûr que les sacrificateurs, Finesse et comment il s'appelait son frangin. Ça ne m'intéresse pas de retenir leur prénom. Franchement, ils offraient des sacrifices. Ils offraient des sacrifices. Offrir des sacrifices, offrir une belle prédication à l'Église. Quelle belle prédication! Ça ne sert à rien, une belle prédication. Dieu cherche quelqu'un, une assemblée. Ça serait le top que Dieu trouve une assemblée en entier. Je vous avoue que là, j'ai manqué encore un peu de foi. Mais je sais que Dieu peut trouver un homme, une femme, quelques-uns qui vont dire « Oui, je vais payer le prix ». Et le diable, bien sûr, essaie de nous faire croire que payer le prix, ça va nous détruire. C'est exactement l'inverse. Je suis persuadé qu'il y a une joie, une bénédiction et d'abondante joie devant la face de Dieu pour ceux qui cherchent sa face. On va terminer avec ce texte où justement, vous savez que dans l'Odyssée, Jésus frappe à la porte. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, on voit comment Dieu marche au milieu de l'Église. J'ai souvent cité ce texte dans les réunions du mardi soir pour expliquer certaines choses. Et je pense que le verset premier du chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens, c'est ce qui s'est passé ici. Vraiment ce qui s'est passé ici. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, est-ce qu'on veut travailler avec Dieu? Vous rendez compte? Travailler avec Dieu. En attendant qu'il revienne, est-ce que. De toute façon, il faut que le dessein s'accomplisse. Écoutez, moi, je sais une chose. C'est que Dieu a un dessein, un plan. Il s'accomplira. Point. Il s'accomplira. Ici, si on obéit, si on ne veut pas obéir, il ne s'accomplira pas. On restera des religieux, voilà, on se contentera d'avoir une petite assemblée comme la nôtre. On est heureux, on est bien, je veux dire, on peut vivre dans le désert, ça ne se passait pas trop mal en fin de compte. Regardez bien, Jésus les suivait, la colonne de nuée, la manne. Quand vous regardez le désert, leurs sandales ne se sont pas usées. Bon, je veux dire, est-ce que Dieu a été bon envers le peuple Israël dans le désert? Oui, regardez bien les textes, mettez-les ensemble, vous verrez que ça ne s'est pas trop mal passé. Mais bon, ils sont morts dans le désert. On peut mourir dans le désert, c'est pas pour ça qu'on ira en enfer. Dieu va nous garder, sur notre lit de mort, on dira « Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour la manne, merci pour tout. » Mais quelle est l'Église? Quelle est l'Église? Quelle est l'Assemblée? Quelle que soit la dénomination, mais quelle est l'Église qui prendra au sérieux cette affaire et qui dira, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens, vous avez vu 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Que de fois Dieu nous a parlé. À quoi ça servit? Dites-moi la vérité. À rien. À rien. Le soir, on était chez soi et ça n'avait rien changé. Verset 14 du chapitre 6.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors ça, c'est pour les mariages. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est en tel état qu'on est en train de jouer dans le syncrétisme religieux. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui est l'image du diable? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Alors regardez bien. Bon, vous le croyez, si quelqu'un est repenti, converti, né de nouveau, il est le temple du Saint-Esprit. C'est clair, le Saint-Esprit habite dans l'esprit d'un homme qui est né de nouveau. Vous le réalisez ou pas, mais c'est comme ça, il y est. Regardez bien, comme Dieu l'a dit, quand c'est écrit comme ça, c'est clair. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. On est loin de l'Odyssée, là. Hein. Vous me suivez? À l'Odyssée, qu'est-ce que Dieu a dit? Je me tiens à la porte. Là, dans ce texte, on voit une chose, c'est que si on respecte ces conditions, Jésus, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, marcheront au milieu de nous. Et si Dieu marche au milieu de nous, vous en déduisez tout ce qui peut arriver. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, si vous avez besoin d'étudier la Bible, allez voir M. Olé, il va vous donner toutes les instructions et vous comprendrez toutes les... Comment on appelle ça? Tous ces mots qu'on appelle des conjonctions de coordination. C'est pourquoi, vous voulez que Dieu marche au milieu de nous? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Il y a plein de choses impures, mes frères et sœurs. Il y a plein de choses mauvaises. Il y a plein de choses sales. Et si on s'habitue à les regarder, on n'y fait même plus gaffe. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il n'est pas question du péché là, il est question de choses charnelles dont nous devons nous séparer. Il faut faire la différence entre ce qui est humain, toutes les activités de la vie. Aller au travail, c'est une activité humaine. Que quelqu'un ne dise pas, comme un jour un monsieur m'a dit, moi, je ne travaille plus pour avoir la paix, parce qu'au boulot, l'ambiance n'est pas bonne, donc je ne travaille plus. Vous voyez, comment on est capable d'être tordu, vraiment. Et j'ai dit, vous êtes un feignant, un paresseux. Parce qu'il était venu me voir pour que je lui donne une parole de Dieu. Les gens, vous voyez, des fois, ils s'imaginent, parce que voilà, j'ai été dans tel rassemblement, à l'imposition des mains, on m'a dit que je serais comme Josué, comme Caleb. J'ai dit, c'est bien, mais moi, je ne vais pas vous dire la même chose. Et vous voyez, les gens, les pasteurs, pour faire bien, quoi. Et ils disent à tout le monde pareil. Mes frères et sœurs, ce n'est pas sérieux. Avec les promesses que nous avons, nous devons nous séparer de toute souillure, de la chair et de l'esprit, et achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons être soucieux de ces choses. Oui, il y a les œuvres, et que nous les fassions, et donnons des sardines et des bois de conserve, donnons-les. Mais mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est une âne dans un contexte d'apostasie pareil que le nôtre. C'est pareil. C'est exactement pareil. Les Philistins, entre guillemets, ont réussi à nous voler la présence de Dieu. Le monde a réussi à nous voler la présence de Dieu. Voulons-nous retrouver la présence de Dieu dans l'Église? Voulons-nous dire, oui, je veux payer le prix. Oui, tu vas m'appeler. Dieu va vous montrer. Ce n'est pas à moi de vous dire, venez à la réunion de prière, vous jouez du violon, et bien, ce serait bien que vous jouiez. Non, ce n'est pas moi. Je pense que le Saint-Esprit est capable, à chacun, de vous montrer dans un moment de prière ce que vous avez à faire. Anne, malgré le pasteur très, très spirituel qui lui a parlé, elle est sortie de ce temple et son visage ne fut plus le même parce que sa prière avait atteint le cœur du Seigneur. Alors, bien sûr, vous pouvez venir nous voir, les anciens, les diaconesses, ceux qui ont des années d'expérience, on peut vous conseiller, on le fera. Mais je crois que quand vous passerez devant Dieu, il vous faut avoir eu le privilège sur la terre de dire, voilà, Dieu m'appelle à ça, une église c'est une maison de prière, je dois aller prier. Est-ce que c'est au pasteur à répéter en boucle que tous les dimanches, venez à la réunion de prière? Moi, je crois que ce n'est pas possible. Mais si vous ne pouvez pas, parce que vous avez des gosses à la maison, parce que si, parce que là, mais Dieu le sait. Mais dans un moment de communion avec Dieu, le Seigneur, il vous montrera ce qu'il attend de vous. Croyez-moi, quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Alors on va prier, il nous reste quelques minutes. Mais j'aimerais vraiment que comme Anne, vous ne faisiez que remuer les lèvres. Mais laissez-moi vous dire que Dieu entend ce qui se passe dans votre cœur. Vous le croyez que Dieu est tout puissant ? Mais Dieu le voit aussi. Si ce soir, à 21h, vous serez en train de regarder des cochonneries sur votre ordinateur, ce n'est pas avec des gens comme ça que l'œuvre de Dieu se fera. Vous ne ferez rien. Et quand Dieu viendra, vous ne serez pas prêt. Si vous voulez marcher dans la souillure, eh bien souillez-vous. C'est écrit que celui qui se souille encore. Mais il y a certainement des instruments, des ânes, des hommes, des femmes qui vont dire « Oui, je souffre depuis des années. Dans mon église, dans ma maison, mon mari, mes enfants, mon patron. Oui, je souffre. Mais ça va me jeter dans la présence de Dieu. » Alléluia. Alors, Dieu a un dessein. Je le répète parce qu'il faut le dire. Je le répète pour terminer. Oui, il y a des œuvres. Faisons des œuvres. Mais faisons d'abord avec un grand O l'œuvre de Jésus-Christ. On va prier simplement. Vous savez, Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre cœur. Il a vu ce jour-là où cette femme, après tant d'années de souffrance, elle allait enfanter l'homme qui correspondrait au dessein de Dieu. Et Dieu cherche une église, des hommes, des femmes qui vont correspondre à l'accomplissement de ce dessein. Notre Père, quelle grâce de savoir que nous pouvons prier le même Dieu que Anne, ce grand Dieu de l'univers. Oui, si l'apostasie était là, tu avais préparé cette femme dans la souffrance. Tu vois toutes les souffrances que nous vivons. Qu'elle ne nous éloigne pas de toi, Seigneur, bien au contraire. Qu'elle fasse concourir tout à ton dessein. Tu vois tout ce qui nous afflige, tout ce qui nous peine, toutes les péninas que nous pouvons rencontrer. Mon Dieu, pardon. Pardon, Seigneur. Ce n'est pas sur les péninas que nos yeux veulent se poser. C'est sur ton nom. Seigneur Jésus, tu vois cette assemblée. Tu nous y as placés. Et c'est vrai que je te demande que tous tes enfants puissent accomplir les œuvres auxquelles tu nous appelles. Mais que d'abord ton dessein puisse se manifester. Seigneur, que tu puisses habiter, marcher au milieu de nous. Donne-nous cet or éprouvé par le feu. Tu vois ceux à qui tu as voulu parler ce matin. Tu vois ce jeune homme, cette jeune fille, ce frère plus âgé, peut-être ce vieillard. Seigneur, tu sais à qui tu voulais parler d'une manière spécifique ce matin. Alors donne-lui la grâce. Donne-leur la grâce d'acheter cet or éprouvé par le feu. Tu voyais Anne. Tu vois sur la surface de la terre tous ceux qui peuvent devenir ses instruments. Merci pour tes desseins. Et nous croyons que comme tu avais trouvé un Noé, tu sauras trouver pour le dessein de cette année, de ces mois à venir, de ces temps qui précèdent l'enlèvement, oui, tu sauras trouver des hommes et des femmes qui vont te donner leur vie, quelles que soient les souffrances passées. Seigneur, parle à ton cœur. Continue ton œuvre dans nos cœurs. Nous allons rentrer dans ta maison, dans nos maisons, mais Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Je te prie en particulier pour tous les tièdes. Je te prie, Seigneur, pour tous les frères charnels, tous ceux qui n'arrivent pas à obtenir la victoire. Tu as dit, Seigneur,
que nous devons nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour toi. Qu'il en soit ainsi afin que tous les chrétiens aient la victoire sur le péché et sur la vieille nature. Oui, nous voulons nous regarder comme morts au péché. Oui, nous voulons retourner au calvaire, non pas en pointillé, mais y rester afin de mourir avec toi comme tu le veux, Seigneur. Et pouvoir dire comme l'apôtre que nous avons été crucifiés avec toi et que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Oui, que ta volonté soit faite pour que ton dessein se réalise. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on rechante le cœur. Conduis-moi au calvaire. Pas un aller-retour, vite fait, hop, que nous y restions. Conduis-moi au calvaire. Tu es mort? Eh bien, moi aussi, je veux mourir avec toi. Pour vivre avec toi et faire ton plan.